Alors, je vais commencer par donner deux, trois impressions générales que je vais ensuite essayer de comparer. Alors, je vous présente mes excuses d'avance pour le caractère très chiffré de mes analyses, mais la nature de l'échange permettra d'aller au-delà des chiffres ou de les interpréter mieux que je ne saurais le faire là, au stade où j'en suis de l'étude. Donc, le premier élément qui, général, hein, qui dépasse les comptes, etc., mais qui concerne l'ensemble des festivals, c'est un certain nombre de traits qu'on a mis sous l'angle de la festivalisation. Premièrement, ce qu'on constate quand on examine l'âge des festivals, c'est un premier niveau de festivalisation qui touche au temps, c'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que la grande épopée des festivals soit derrière nous. On a déjà, en 2014, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, il y a eu beaucoup de succès pour une cartographie qui s'appelait la cartocrise et qui montrait les annulations, notamment de festivals, de beaucoup de festivals et d'opérateurs. On s'est dit, c'est la catastrophe. J'ai des collègues espagnols, un collègue espagnol en particulier, Tino Carreño, qui a fait sa thèse sur la question des festivals en Espagne après la crise des subprimes en 2008. Et il partait de l'hypothèse qu'après 2008, il y aurait un effondrement général des festivals. Et sa thèse montre que, aux surprises, il y a effectivement beaucoup de suppressions de festivals, mais il y a au moins autant de créations de festivals. Ce n'est pas les mêmes. Et l'enjeu d'action publique, il est là. C'est-à-dire qu'en Espagne, une grande partie des festivals qui ont été supprimés pendant cette période-là sont plutôt des festivals, disons, d'offres artistiques traditionnelles, très fortement sous l'influence des municipalités, de petite taille, en milieu rural. Et les nouveaux festivals qui se sont créés sont des festivals de caractère plutôt privé ou très fortement influencés par les commerces, dans des disciplines où les musiques actuelles dominent, le rock, la pop, l'électro, et sur un triangle de chalandise, pourrait-on dire, entre Bilbao, Madrid, Valence et Barcelone. Donc là, il y a un véritable enjeu d'action publique. Est-ce que, voilà. Mais l'enjeu n'est pas de voir le nombre de festivals régresser, mais de voir quels sont les festivals qui apparaissent, quels sont ceux qui disparaissent. La festivalisation, dans notre cas, c'est d'assister donc à l'essor du nombre de festivals et au fait que dans notre échantillon de 1 400 festivals, il y en a encore 30%, plus de 30%, qui sont nés depuis moins de 10 ans. Et ce qui est intéressant, c'est, alors là, ce qu'on se rapproche de vous, c'est que les festivals qui sont nés depuis moins de 10 ans, enfin de vous, non, finalement, on ne se rapproche pas de vous, parce que les festivals qui sont nés depuis moins de 10 ans sont des festivals qui sont massivement dans les nouveaux domaines des arts visuels, de la littérature, donc fausse rencontre, et du cinéma, avec notamment la dématérialisation des conditions de mise en œuvre d'un festival de cinéma qui compte sans doute pour beaucoup dans cette dynamique, en dehors de la politique du CNC qui était de soutenir les festivals de cinéma de manière assez volontariste. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on constate au titre de la festivalisation, et là dont vous témoignez très bien ici, c'est l'extension des lieux, des territoires. Le constat général qu'on peut faire, c'est que le nombre de jours de mise en œuvre des festivals est corrélé avec une extension dans l'espace des lieux de production. Et c'est particulièrement vrai dans les nouveaux domaines, avec les arts visuels. Les festivals d'art visuel se produisent dans des lieux qui sont de plus en plus étendus, avec une moindre influence du lieu majeur quand il y en a un. Et les festivals de littérature également, qui se produisent beaucoup dans les bibliothèques, dans des librairies, dans des lieux extrêmement diversifiés. Autrement dit, il y a une sorte de diffusion territoriale des festivals donc dans l'espace. Le troisième élément, c'est de s'intéresser à la manière dont les festivals nouveaux sont localisés sur l'espace. Et ce qu'on constate, c'est que parmi les derniers festivals créés, ces 33% de nouveaux festivals, eh bien, une grande partie sont en territoire urbain. Autrement dit, ce n'est pas pour faire du morasse que je dis ça, mais le pays festivalier est en train de rejoindre le pays réel, c'est-à-dire la réalité de l'urbanisation, au sens large du terme, avec un moindre poids des villes-centres. Hein, sauf exception, alors il y a des spots comme ça, il y a des villes qui sont devenues quasiment des villes festivalières à fond, avec l'idée de cesser d'avoir toujours un festival en action, quel que soit le secteur. Rennes est dans cette situation avec près de 80 festivals qui se succèdent au cours de l'année dans différentes disciplines. Troisième élément, je reviens dans le temps, après l'espace, c'est la question des saisons. En gros, quand on regarde la place des festivals dans l'ensemble de l'année, on est assez convaincu qu'il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de saison festivalière. Alors là, il y a un décalage très fort entre les journalistes, les médias, qui commencent à réfléchir à ce fameux marronnier qu'est-ce qu'il y a de nouveau à dire sur les festivals aujourd'hui ? C'est toujours vers la fin avril. Pour le début d'une saison qu'on estime être au mois de juin, fin juin. Et puis la réalité des festivals, où on voit en fait que les nouveaux festivals en particulier se créent très massivement en dehors de ces deux mois de l'été. Il y a beaucoup de raisons pour ça. La première, c'est que la place est prise, notamment par les festivals de musique, et que ça compte, même si c'est une économie massivement non lucrative, les festivals. C'est une économie qui est aussi toujours agitée par des compétitions. Elles ne sont pas forcément marchandes, mais ce sont de vraies compétitions et elles sont quelquefois acharnées pour bénéficier, disons, de la place au meilleur moment qu'on estime être le meilleur moment, c'est-à-dire l'été. Donc, en fait, on voit que l'avant-saison, l'après-saison, sont des moments beaucoup plus importants dans l'activité festivalière. Et la deuxième raison qu'on pourrait avancer, c'est que les festivals étant, on le verra tout à l'heure, assez largement aidés par les pouvoirs publics, les pouvoirs publics n'ont pas tellement intérêt, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer avec une idée un petit peu, une idée reçue sur les élus, n'ont pas tellement intérêt à ce que les festivals aient lieu quand leurs concitoyens sont en vacances potentiellement ailleurs. Autrement dit, il y a beaucoup plus de festivals aidés par les pouvoirs publics en juillet qu'en août, et il y en a beaucoup hors saison, parce que c'est là que l'élu, U ou UE, peut s'identifier à un festival, c'est-à-dire dans une société morose, à un moment plutôt festif, de joie, joyeux, de partage, positif, de passion joyeuse, comme disait Spinoza. Donc, voilà, je pense que ce sont deux causes. Il y a de la place, et c'est politiquement intéressant, qui explique le développement des festivals en dehors des saisons. Mais il y a un troisième élément qui me paraît très important, c'est que, du coup, c'est à la fois une cause et une conséquence. Quand on est hors saison festivalière, on est dans une interaction avec des lieux et des opérateurs culturels qui agissent au long de l'année. Autrement dit, le modèle du festival est en train de se transformer sous nos yeux d'un modèle de l'exception temporelle, spatiale et artistique à un modèle du partenariat temporel, spatial et artistique avec les opérateurs qui sont présents tout au long de l'année, quand évidemment ils sont présents et quand on n'est pas en milieu rural profond. Parce que la problématique évidemment des festivals en milieu hyper rural, c'est de faire exister une offre culturelle là où les opérateurs annuels sont empêchés de le faire faute de possibilités tout simplement sociologiques ou de moyens. Voilà. Voilà quelles sont les grandes leçons qu'on peut tirer de l'analyse globale des festivals. Alors, je vais m'essayer à une petite comparaison. Alors, vous allez évidemment à nouveau pousser un cri d'effroi quand vous allez voir avec qui je vous compare. Mais comme disait Talleyrand, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Alors, donc,
citations.
Comment ?
Il y a beaucoup de citations.
Oui, il y en a plein. Et pour faire passer les chiffres, c'est quand même... alors, vous voyez, donc, je vous ai mis en rouge les comptes, et je vous compare à la littérature et au panel général. Donc, vous le voyez, vous êtes assez caractéristique en termes d'âge de cette nouvelle génération des festivals qui apparaît au cours des 20 dernières années, avec donc une moyenne d'âge de 19 ans, des festivals de contes de l'échantillon. C'est plus que les festivals littéraires en général. Autrement dit, la dimension conte par rapport aux festivals littéraires plus généralement, si je peux me permettre, si je peux rester sur cette inexactitude, sont la partie, disons, la plus tendance sur le territoire français pour 3 ans pour 3 ans d'écart de moyenne. En termes de durée, vous le voyez, pour les jours, les festivals de contes sont aussi très caractéristiques de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des festivals qui sont extensifs, hein, qui ne sont pas ramassés. Alors, les festivals en moyenne globale sont évidemment en moindre durée, autour de 10 jours. Et là, bon, ce que ne montre pas cette statistique violette, c'est qu'à l'intérieur, il y a vraiment une très grande différence entre les festivals de musique et les autres. Les festivals de musique étant par essence beaucoup plus ramassés, d'autant plus qu'on est dans le rock, d'autant moins qu'on est dans le classique. Donc, un festival de musique classique est un petit peu plus extensif qu'un festival de rock. Et quant au lieu, vous le voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, vous êtes assez caractéristique de festivals qui s'étendent sur des lieux différents, sans doute pour toucher des publics eux-mêmes différents, pour aller à la rencontre des publics, comme on le voit dans des stratégies de délocalisation de la plupart des festivals, avec des effets qui sont extrêmement contrastés. C'est-à-dire qu'on peut penser, par exemple, que le fait de changer de lieu va donner au public une sociologie complètement différente, et qu'elle est beaucoup plus ouverte, éventuellement plus populaire, moins rodée à l'offre artistique qu'on lui propose. C'est le cas dans certains festivals, mais on trouve aussi l'inverse. Par exemple, le festival de Vézelay qu'on avait enquêté, le public du lieu central par excellence de la basilique était finalement plus populaire et plus renouvelé que les spectacles du festival qui avaient lieu dans des églises autour de Vézelay. Pourquoi ? Parce que la composante de touristes venant à Vézelay pour voir Vézelay et ne pas mourir, idiot, était importante, et cette population de touristes, par définition, elle n'était pas forcément toujours habituée à une offre artistique et donc à des messes de Bach, etc. On déplore que la comparaison n'ait pas été menée entre les festivals de contes et les festivals de spectacles vivants pour voir finalement ce qu'il en aurait été des écarts de dynamique dans ce domaine-là. Donc je bats ma coulpe une nouvelle fois et je continue néanmoins, hein, c'est pas grave, vous êtes sûr que c'est pas grave? Alors DOF, oui, j'ai oublié de le dire, DOF c'est le résultat de l'enquête dispositif d'observation des festivals. DOF, c'est le résultat de l'enquête transportée à l'échelle de l'ensemble des secteurs culturels. En situant maintenant les niveaux d'activité des festivals. Ici, vous avez donc une statistique qui est assez convenue, attendue, il me semble, hein. C'est que les festivals de littérature sont de petite envergure, on va le voir tout à l'heure, sur le plan à la fois des publics, sur le plan des finances, et ont évidemment, par ce fait-là, un niveau d'invitation des artistes moindre que les festivals de littérature en général, et surtout que la moyenne des festivals. Mais là, on a des festivals où il peut y avoir plusieurs centaines d'artistes. Par ailleurs, il y a une sorte d'injustice ou de déséquilibre entre ces deux statistiques, ou trois, c'est que quand on a un festival de musique, on a demandé le nombre d'artistes invités, et un orchestre, c'est évidemment déjà 35 ou 58 artistes. Tandis que quand, pour une session, un festival de contes invite un artiste, en général, il y en a un ou une. On le verra tout à l'heure dans la part des dépenses consacrées à l'artistique dans les festivals de contes par rapport aux autres. Deuxième élément, évidemment, là, c'est tout à fait attendu, la part des artistes étrangers est bien moindre dans les festivals de contes que dans les festivals en particulier du spectacle vivant et de musique, notamment. Mais là, contrairement à une idée reçue, en fait, les festivals ne sont pas le cheval de Troie de la production internationale. C'est-à-dire que la part dans tous les secteurs, la part des artistes nationaux est toujours beaucoup plus importante que la part des artistes internationaux. Voilà, c'est une remarque qu'il fallait faire. Enfin, coopération. On a demandé au festival avec combien de partenaires non festivaliers le festival intervenait, avec cette idée qu'on pouvait nourrir par ce biais l'hypothèse selon laquelle les festivals avaient cessé d'être ces opérateurs un peu spécifiques, vous savez, hein, qui arrivent avec toute leur équipe technique depuis Paris une semaine avant la première date et qui, deux jours après la dernière, sont partis. Au revoir à l'année prochaine. Et en fait, on voit à quel point, finalement, les coopérations sont nombreuses. Et 15 pour 16 en moyenne générale, les comptes sont dans la moyenne, en gros, dans la moyenne générale. Les festivals littéraires, eux, ont plus de partenaires, souvent parce que, au niveau local, ils sont en partenariat avec beaucoup de structures local qui relève plus ou moins du champ littéraire. Le nombre d'entrées, le nombre moyen d'entrées dans les festivals de contes, c'est 3 700. Je pense que ça correspond assez bien à votre idée des choses, hein. C'est 6 500 en littérature et c'est 14 130 en moyenne globale. Alors, ceci dit, j'attire votre attention sur en fait, alors je vous ramène à vos leçons de mathématiques de collège et de lycée en distinguant la moyenne et la médiane. La moyenne, c'est je prends tous les publics, toutes les entrées de tous les festivals, je les additionne et je les divise par le nombre de festivals. J'ai la moyenne. Ceci dit, si j'ai la moyenne là et que je prends 270 000 entrées aux vieilles charrues, ça va me tendre la moyenne vers le haut. Donc, cette moyenne-là, elle va devenir un peu artificielle pour beaucoup de festivals. C'est la raison pour laquelle on regarde aussi la médiane, quand le groupe étudié est suffisamment important. Et quand on regarde la médiane, là, on sépare l'échantillon en deux. Donc, on descend, mettons qu'on ait 1400 festivals, on arrive jusqu'à 700, et à 700, on dit à quelle valeur on est. Et cette valeur sépare les deux échantillons de manière égale. Et là, on n'est plus du tout influencé par les gros chiffres. Donc, si on a, comme là, un chiffre assez important, 14 000 entrées, c'est intéressant de regarder où se situe la moyenne, 14 000. Où se situe la médiane, 4 000. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de festivals énormes qui tordent la moyenne vers le haut. C'est la raison pour laquelle on ne cesse, nous, de dire, si on veut prendre en compte la réalité des festivals, il faut désaimanter le regard des grands messes. Hein? Parce que les grands messes festivalières, les vieilles charrues, les Eurocaines de Belfort, Rock en scène, enfin bon, les gros trucs en musique actuelle, les gros trucs aussi, les grosses machines dans tous les domaines, hein, tordent la réalité vers le haut. Et nous incite à regarder une chose qui n'est valable que pour 5-6% de festivals. Voilà. Donc finalement, Les festivals de contes, leur moyenne, c'est 3765, mais leur médiane, elle est à peine inférieure. Elle est aux alentours de 2800, 2700. Autrement dit, il y a une réalité beaucoup plus homogène des festivals de contes par rapport à la réalité très dispersée et très tordue par les gros des autres domaines artistiques. L'identité sociale des festivals. Alors là, ce qu'on voit ici, bon, on ne le voit pas très bien, et puis en plus, il y a une faute d'orthographe, mais c'est pour voir si vous suivez. Donc, voilà, c'est un dispositif pédagogique qui m'appartient, dopé à disposition. Ce que montre ce graphique, c'est l'importance d'un phénomène, le bénévolat. Le bénévolat, il est attaqué deux fois par différents types de personnages. Premier personnage, le festival privé. Le festival privé qui ne peut pas recourir au bénévolat, pas privé lucratif, accuse les festivals de recourir au bénévolat et donc de recourir à un salariat déguisé et de tordre la concurrence. C'est une accusation qui est souvent également relayée par les inspecteurs du travail, même quand ils sont eux-mêmes bénévoles. Ce qui m'est arrivé en m'intéressant de près et en interviewant pendant 2 heures un inspecteur du travail sur les contradictions de son activité et sur les contradictions de ses évaluations des festivals. Donc voilà, quand on inspecte un festival, on court le risque, en appliquant la loi, de le dévitaliser complètement. Est-ce qu'il faut prendre ce risque? Et comment est-ce qu'on fait avec ce risque? Donc, il y a différentes attitudes, il y a différentes inspections du travail, et de ce point de vue-là, et ce n'est pas le seul cas, il y a une inégalité territoriale des festivals devant les contrôles des inspections du travail qui est sidérante. Il y a des inspections du travail qui, volontairement, détournent le regard par rapport à l'activité bénévole, tandis que d'autres sont extrêmement sévères et mettent en danger l'économie mixte et non lucrative de beaucoup d'événements. Bon, je ne parlerai pas du Puy du Fou. Ben, si, j'en ai parlé. Voilà. C'est un premier niveau d'attaque des festivals. Le deuxième niveau d'attaque des festivals au sujet du bénévolat, c'est l'idée selon laquelle, en fait, les bénévoles, ils viennent être bénévoles à un festival parce qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas payer le ticket d'entrée. Autrement dit, ce sont des passagers clandestins du public. Et en fait, bon, alors là, j'aurais pas le temps du tout de développer ce point, mais on met à mal ces deux thèses en examinant à la fois par les entretiens et par le profil sociologique des bénévoles les parcours de bénévoles. Comment ils s'associent à un festival? Et quelle est la part des opportunistes dans le public des bénévoles? En gros, un quart, en moyenne, on a estimé à un quart, ceux des bénévoles qui viennent vraiment par opportunité, par intérêt pour le festival, mais pour sa production, pour aller voir des artistes, etc., et pas pour participer à une cause. Mais tous les autres, ils sont complètement impliqués dans une cause qui est de type territorial, qui est de type social, qui est de type artistique et culturel, etc. Donc, cette thèse ne vaut pas, enfin, disons qu'elle vaut pour 25% des bénévoles, ce qui n'est donc pas la majorité du genre, comme disait Jean Gabin dans Le Président. Autre citation.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de petit four? Ce que je veux dire par là, c'est que certains festivals sont plus où on se montrer, contrairement au conte, où il y a plus de cacahuètes que de petits fours. Non, je ne sais pas, selon les festivals, oui. ça doit jouer.
Parmi les causes de qu'on voit sous l'angle des opportunistes, il y a un peu de ça au sens de découvrir l'arrière-scène, la vie d'artiste, être au contact d'artistes, etc., tout ça. Mais à la limite, parfaitement respectable, hein, je dirais. C'est pas du tout, je ne dis pas opportuniste au sens de vilain opportuniste, mais des gens qui voient le festival comme une opportunité, et même une opportunité d'ailleurs de professionnalisation, pourquoi pas. Bon. Mais pour les autres, est-ce que finalement vous ne croyez pas que les cacahuètes ou les petits fours, le demi ou le verre de champagne font partie des pratiques des publics aussi? Autrement, c'est complètement ça. La magie du festival, c'est la conjonction de relations sociales, d'un rapport à l'art et à un lieu. Donc là, je dirais, la convivialité que, disons, les tenants d'une vision très classique, enfin, la pensée scrogneux sur les festivals, hein, style Finkielkraut, par exemple, considèrent que le festival, c'est le moyen d'un rapport relativisé à la création artistique, le vrai rapport à la création artistique étant d'une part de l'ordre de l'apprentissage, de la souffrance initiale avant que se dégage petit à petit une forme de plaisir, et puis c'est quelque chose de suffisamment sérieux pour qu'on soit dans des logiques assez fermes de programmation de saison, d'abonnement, de fidélité, etc. Le festival, c'est tout le contraire, donc ce serait un rapport très relatif, détaché, dégagé et corrompu de rapport à l'art. En fait, c'est complètement inexact. Et c'est complètement inexact parce que finalement, il y a entre le verre de champagne et le demi de bière un équivalent systémique, l'un pour les musiques savantes et l'autre pour les musiques actuelles. Et il n'y a pas de différence sur le rapport d'engagement, de connaissance et de découverte à l'égard de la création artistique. Aucune différence. Et à la limite même, si j'étais un peu méchant, je dirais qu'il y a plus de rapports de conventions sociales détachées du rapport à l'offre artistique dans les musiques savantes, dans une partie du public des musiques savantes, que dans les musiques actuelles. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Bon, je ne parlerai pas des dynamiques de public, sauf si vous m'y incitez tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle une casserole dans les oraux universitaires. Laisse traîner la casserole. Voilà, bon, j'en dirai pas plus ici. Je continue. Alors, les budgets. Voilà, donc, il me semble que là, on est dans une réalité assez claire. Bien sûr. Non, la médiane. La médiane, d'ailleurs, je l'ai oublié, la médiane de ces 448 000 festivals, je pense qu'elle est aux alentours de 100 000, mais je retrouve quand même, peu importe. Mais vous le voyez, donc il y a un écart absolument considérable entre les réalités des festivals de contes et la réalité des festivals en général. Donc, on est dans des dispositifs beaucoup plus modestes et de manière assez intéressante. Bon, je pense que ça se passe de commentaires, donc je passe directement à... c'est pas que ça va vous faire souffrir, mais voilà, c'est simplement... voilà. La structure des dépenses est également très intéressante. Parce que avec ces 65 000 euros, un festival de contes, il investit plus que les autres dans l'artistique. Alors pourquoi? Parce que c'est un esthète, le festival de contes? Pas du tout. C'est parce qu'il a moins de dépenses ailleurs. Il a moins de dépenses techniques, par exemple. Hein, un festival de musique actuelle, il a énormément de dépenses techniques. Un festival d'art visuel, un festival de cinéma, ils ont énormément de dépenses en communication. Là, les dépenses artistiques sont parmi les dépenses que, avec beaucoup de bénévoles, un festival de contes peut se permettre et donc de consacrer quelque chose. Alors, c'est très intéressant parce que ça veut dire aussi que les festivals, du coup, sont des leviers considérables pour la vie artistique. pour la vie artistique, qu'elle soit nationale ou internationale, peu importe, mais pour la vie artistique. Ce ne sont pas des opérations de com, des opérations de fête à neuneux, comme le prétendent les adversaires des festivals. Hein ? Et c'est la raison pour laquelle, quand on fait des statistiques inversées, c'est-à-dire qu'on regarde ce que les festivals représentent dans les revenus des artistes, selon les disciplines, on arrive à des niveaux de revenus extrêmement importants. Près de la moitié, pour certains ensembles musicaux, par exemple, j'ai un souvenir à la Musique du Monde, près de la moitié des ensembles de Musique du Monde touchent leurs revenus de leur production dans les festivals. D'où le caractère particulièrement dramatique de la crise de la pandémie depuis 2020. Voilà, donc je continue. La structure des recettes maintenant, donc en gros, les festivals de contes, mais c'est moins le cas que les festivals littéraires, par exemple, ont un niveau de subvention supérieur à la moyenne, la moyenne étant à 47%, avec donc par voie de conséquence, un niveau de recettes propres également inférieur à la moyenne, 38%, et 10% d'autres recettes, parmi lesquelles on trouve des contributions volontaires, on trouve des revenus tirés de certains fonds qu'on appelle les organismes de gestion collective, type SACEM, SACD, etc. Alors là, petit moment de douleur, donc l'écart entre les, parce qu'on a donc interrogé les festivals sur leur budget prévisionnel en 2020 et puis ce qu'ils ont réalisé. Alors, vous le voyez, en moyenne, l'écart est de 42%. Alors, je vais vous faire une petite analyse générale et puis après, on viendra à la question des comptes. Du festival 2020 prévu, il a été dépensé 42%. Du festival 2020 prévu en recettes, il a été touché 43%. Vous avez peut-être entendu parler du festival bashing là, depuis à peu près un an. Les festivals ont été surfinancés alors qu'ils n'ont pas eu lieu. Donc, ils ont mis beaucoup d'argent de côté. C'est à la limite du convenable, même du légal, etc. En fait, ce n'est pas le cas. Globalement, ce n'est pas le cas. Je dis globalement, ce n'est pas le cas. Parce que ponctuellement, c'est évidemment le cas. Ça n'est d'ailleurs pas propre au festival. Il y a un certain nombre d'opéras qui ont touché l'intégralité de leur subvention et qui ont prétendu ensuite n'avoir aucun retour à faire du côté des compagnies artistiques, des artistes, etc. Ils se sont fait taper sur les doigts depuis. Hein. Mais dans certaines régions, comme la Bretagne, par exemple, la Bretagne a maintenu l'intégralité des subventions, quel que soit le sort du festival, qu'il se tienne en dégradé, qu'il ne se tienne absolument pas, etc. Donc, toute la subvention a été acquise au festival en 2020. Et là, maintenant, la région bretonne regarde ce que les festivals ont fait de leur subvention. Et ceux qui ont gardé l'argent pour eux sans jouer leur rôle de levier de la vie artistique se font taper sur les doigts. Bon. Ou voilà. Pudiquement, la direction de la culture de la région bretonne dit que là, on commence à discuter. Donc, voilà. Donc, première remarque générale, 42%. Deuxième remarque, qu'ont fait les festivals avec ces 42%? Vers où c'est allé? Premièrement, les dépenses administratives, c'est-à-dire on a sauvé la baraque. En gros, on a maintenu les salaires du personnel permanent, on a maintenu les frais de structure, et là, 88% de ces frais-là, prévisionnels, ont été effectués. Ensuite, deuxième niveau, le niveau, enfin, je passe les petits aspects de provision pour charges qui ont été un petit peu augmentés pour quand même mettre un tout petit peu d'argent de côté, mais entre le prévisionnel et le réalisé, il y a 103%, c'est-à-dire qu'il y a 3% de plus qu'initialement prévu, c'est quand même pas, il n'y a pas de quoi crier au scandale. Le troisième poste, en niveau de réalisation, c'est le poste de la médiation. C'est intéressant. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Autrement dit, des festivals qui n'ont pas pu avoir lieu dans leur date ont maintenu leur activité de médiation. Activité auxquelles on ne pense pas forcément quand on parle de festival. Et c'est d'une certaine manière la confirmation de ce qu'on appelle la festivalisation. Le festival n'est plus le festival. Il est aussi un opérateur qui se rend responsable d'un certain nombre de missions. Et alors, ça a été particulièrement le cas dans les festivals de cinéma, parce qu'ils ont pu maintenir leurs actions de médiation en milieu scolaire, hein, et des festivals littéraires. Voilà. Les festivals de contes, vous voyez, le prévisionnel est plus près du réalisé que dans les autres domaines. Pourquoi ? Parce que c'est dans ces domaines-là, contes et littérature, que le nombre de festivals qui ont pu se tenir malgré tout, passant entre les gouttes, quasi normalement, est le plus important. C'est évidemment. Prenons donc les festivals de littérature en général, parmi lesquels j'ai mis les contes. Encore une fois, mon visage se couvre de cendres. Ces festivals ont pu se tenir en mode normal à près de 40%. Si on prend les festivals de musique actuelle, c'est 9%. Donc là, vous voyez la grande différence. C'est donc normal que les budgets prévisionnels et réalisés soient plus proches les uns des autres que dans les autres domaines, avec aussi cette idée qu'il y a beaucoup plus de médiation, me semble-t-il, dans le conte, que dans des festivals d'art visuel ou de musique actuelle. Conclusion. Première conclusion, et donc conclusion générale, hein, si vous le permettez. Le festival ressemble de moins en moins à la définition que l'on a prêtée à Wagner, un moment exceptionnel dans un lieu exceptionnel pour une offre exceptionnelle, et de plus en plus à quelque chose qui cesse d'être exceptionnel, d'une part parce que le nombre de festivals a considérablement augmenté. On peut faire l'hypothèse qu'il y avait moins de 600 festivals à la fin des années 80, il y en a plus de 6000 aujourd'hui. Hein. Quand Serge Cancel, qui est de l'inspection générale des affaires culturelles, a fait son panorama des festivals, il a trouvé 3185 festivals. Déjà, c'était beaucoup plus que les 2000 que prétendait avoir trouvé le ministère en général. Et puis, Serge Cancel, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, a fait un tour de France pour voir un petit peu combien de festivals il trouvait s'il se déplaçait sur le terrain. Il a trouvé systématiquement deux fois plus. Donc, 6000, bah, on y est, quoi. Je crois que c'est assez logique. Et c'est assez logique qu'avec l'extension du nombre de festivals, le caractère exceptionnel du festival lui-même soit un tout petit peu remis en question. L'image d'Épinal du festivalier qui, dans son combi Volkswagen à 15, alors qu'il n'y a que 8 places, va faire 1000 km pour aller voir son festival chéri très très loin, cette image-là, elle décline. Elle décline et on le voit sociologiquement. Plus les festivals augmentent en nombre, plus leur public est régional. Et donc, plus la responsabilité des régions est désignée pour accompagner la dynamique des festivals. Deuxième remarque, avec des diversités de secteurs et de territoires. Il y a un phénomène global, la festivalisation, mais cette festivalisation, elle doit tenir compte du maintien de diversités fortes attachées à des secteurs et attachées à des territoires. Et donc là, voilà, donc, dans l'idée de passer de la réflexion, de l'observation à l'action, il faut tenir compte de ces phénomènes-là, me semble-t-il, pour développer les critères de soutien. Alors, parmi les critères de soutien, et on est en France, et donc normalement il est logique qu'on parle de l'État. La grande surprise qu'on a eue, c'est quand on a fait l'étude de ce dispositif d'observation des festivals, c'est qu'on a remarqué que si on faisait le total sur les près de 900 festivals qui avaient répondu en totalité au questionnaire, si on regarde le total des subventions accordées par l'État, on est déjà à plus de 25 millions d'euros. Or, l'État déclare aider 350 festivals pour 32 millions d'euros par an. Avec 800, on était déjà à 25 millions, ce qui voulait dire que, de toute façon, il y avait un problème. Soit les festivals nous avaient menti, première hypothèse, soit il y avait une réalité qui nous était jusque-là masquée. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on est allé à la rencontre des acteurs sur le terrain. On est allé voir les DRAC. Et on leur a demandé, mais vous aidez combien de festivals? Donc, la DOXA, 350, 32 millions. D'accord. Mais là, on a une réalité qui est qu'on a beaucoup plus de festivals qui disent être soutenus par l'État. Et en réalité, l'explication, elle est simple. L'État soutient 350 festivals au titre de festivals, mais sans le dire, soutient des festivals en région, mais pas au titre de festivals. Donc, quand on demande à l'État combien de festivals il soutient, il nous sort ces 350 au titre de festivals. Mais quand on demande aux festivals s'ils sont soutenus par l'État, il y en a beaucoup plus qui arrivent, parce qu'ils sont aidés pour une aide à la création, pour une résidence, pour je ne sais quel dispositif politique de la ville. Ils sont soutenus par le ministère de l'Agriculture pour le festival au foin de la rue, par exemple. Hein. Et du coup, on a là une réalité complète. Ça existe. Hein. Un gros festival hein, au foin de la rue. C'est un gros festival très intéressant parce que... je fais une parenthèse. Bon. J'ai discuté en Pays de la Loire avec les festivals qui avaient besoin d'une réflexion sur leur développement. Et on est arrivé à un moment à une discussion sur les publics. Alors la discussion tarte à la crème un peu, mais elle est importante. Sur les publics, c'est comment on fait pour démocratiser les publics, pour amener à notre art des publics qui n'y viennent pas, etc. Alors moi, je les rassure un peu en disant, ne vous inquiétez pas quand même, il y a quand même toujours 30% de nouveaux publics, 35% de nouveaux publics chaque année dans un festival qui peut avoir même 30 ans. Donc, il y a une dynamique de renouvellement, mais certes, ce n'est pas une dynamique de renouvellement sociologique à fond. Ce n'est pas parce qu'on a 30% de nouveaux publics que ce nouveau public, il est plus populaire, plus jeune, plus féminin, plus... Et le gars, dont j'ai oublié le nom, il m'excusera, du festival au foin de la rue, eh ben, il a dit un truc que j'ai trouvé très intéressant. Il a dit, moi, le public, sa diversité sociale, ce n'est pas mon problème. Je vends des billets, le public vient, et mon boulot, c'est la diversité artistique de la production, et c'est la diversité sociale de mes bénévoles. Intéressant. C'est sur les bénévoles que je mets le paquet sur la diversité sociale. C'est là que je me fais un devoir d'intégrer socialement des gens par le bénévolat, non pas par le public. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, je referme la parenthèse. C'est en Pays de la Loire. Mais encore, je ne me rappelle plus. Mais... Et quand Internet marchera, je crois que c'est, je dirais, en Mayenne, mais c'est pas sûr. Oui, donc les critères de soutien des festivals, alors ça c'est quand même une difficulté parce que le critère de soutien d'un festival. Vu du point de vue d'un ministère de la culture réticent et sectorisé, c'est toujours le critère artistique. Or, la dynamique même de la festivalisation, c'est une dynamique hybride entre la communion sociale et l'offre artistique, entre la découverte et le mainstream, entre l'action pédagogique et la diffusion. Tout est mélangé. Et donc, c'est très compliqué, je crois, de maintenir la fiction selon laquelle le ministère de la Culture ne serait intéressé que par l'artistique, au sens strict du terme. Donc là, il y a une réflexion à avoir et c'est un vrai débat. Je ne prends pas position plus que ça. Quatrième élément, le rôle d'ensemblier. Pourquoi c'est intéressant de soutenir des festivals ?
On nous a précisé sur Zoom le lieu du... C'est Saint-Denis de Gastine en Mayenne.
Coup de bol, hein ? Coup de bol. Non, pas vraiment. Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant de soutenir un festival ? Est-ce que c'est parce que c'est bien, un festival en soi ? Peut-être. Mais c'est aussi parce que c'est un opérateur d'opérateurs. Un festival, quand il se crée, il génère une économie dans une chaîne de valeur. Il est au centre de cette chaîne de valeur. Et finalement, ceux qui font de la valeur dans un festival, ce n'est pas tant le festival lui-même que tous les protagonistes qui sont des producteurs, des éditeurs, des tourneurs, qui sont des éditeurs de musique, qui sont... voilà. Cela, finalement, compte peut-être plus sur le plan économique. Je me souviens de Jean-Paul Roland, le directeur des Eurocaennes. J'ai participé à Nancy à un colloque sur les festivals. Et Jean-Paul Roland, il commence son intervention en disant « Vous savez, nous, si on est directeur de festival, c'est parce qu'on n'était pas bon à l'école. » Et il nous tombe sur le dos, aujourd'hui, des budgets de 7 millions, 10 millions d'euros. On n'a pas été formé pour ça, ce n'est pas notre truc. Et quand on va voir les banquiers, on est super fiers de nous parce qu'on arrive à faire tourner une machine. Et les banquiers nous disent, mais vous savez, sur le plan économique, si vous n'étiez pas soutenu par les pouvoirs publics, pour nous, vous ne valez rien. Votre rentabilité, les meilleures années, c'est 1%. Pour une entreprise, 1% de rentabilité, ça ne vaut rien. Donc, c'est intéressant, ça. De savoir que le festival en tant que tel, finalement, il ne doit pas être soutenu pour lui-même. Ce n'est pas pour lui-même qu'il doit être soutenu. C'est pour ce qu'il génère, à la fois d'activité, d'économie, mais aussi d'effusion, de partage, de rencontres, de découvertes, etc. Eh bien, je vais m'arrêter là. Alors, pour ce qui est de la présentation, il y a eu les états généraux des festivals lundi dernier, en présence de la ministre à Bourges, où on a donc présenté, je pense qu'il y a un replay qui va être disponible dans quelques jours, où on a présenté, en tout cas Aurélien, mon collègue et moi, on a présenté d'une part l'analyse globale socio-économique des festivals et ensuite une réflexion sur les publics des festivals. Ça a été suivi par une expérimentation cartographique. Qu'est-ce que ça fait ? Et d'ailleurs, c'est super intéressant. C'est un des cartographes de mon laboratoire qui a fait une petite carte qui montre l'évolution des festivals, l'apparition des festivals par dizaines d'années, par décennies, et la structure des festivals selon les régions. Et on voit qu'il y a des choses très différentes. Par exemple, si on prend la région parisienne, ben là, il y a un vrai problème d'aménagement culturel du territoire. Les festivals de la Grande Couronne, ils sont le plus près possible de la Petite Couronne. Et les festivals de la Petite Couronne, ils sont le plus près possible de Paris. Et alors, dans Paris, c'est l'explosion générale. Il y a un phénomène de concentration, d'hyperconcentration. En Ile-de-France, qu'on ne retrouve absolument pas en Bretagne, par exemple. Et le Grand Est est encore dans une configuration à part. Voilà, donc on a présenté tout ça. Et surtout, là, on est en train de réaliser le manuscrit où on va trouver un chapitre sur les festivals sous l'angle économique, les festivals sous l'angle pandémique, les festivals et leurs partenariats territoriaux et leur public et leur communication sociale sur les festivals et leurs bénévoles. Et puis, on a terminé par une analyse des familles de festivals. Parce qu'en fait, quand on a un phénomène qui est à la fois convergent massif et en même temps qui est aussi divers dans chacun des regroupements, on est tenté de faire des familles de festivals. À partir de critères, on fait des familles. Et c'est intéressant parce que ces familles-là caractérisent quelque chose de la vie des festivals et qui doit être traité à part. Ça ne sert à rien d'avoir une politique de bénévoles pour les festivals privés lucratifs. C'est un peu caricatural ce que je viens de dire, mais voilà. Alors, on aurait aimé avoir plus de festivals, hein, de comptes. On pourra comparer ça, évidemment, avec le spectacle vivant. Hein, ne vous inquiétez pas. Mais je pense qu'on peut, ça mérite d'être comparé et à la littérature et au spectacle vivant. Ça a du sens quand même.
Je partage pour ceux qui sont sur le Zoom. Il y avait une petite remarque indiquant que c'était vraiment intéressant cette étude-là aussi par rapport à notre relation avec le ministère et le soutien du domaine du compte là-haut. Voilà. Je vais faire le porte-parole puisque le son du Zoom, donc ça ne fonctionne pas non plus, donc ne peut pas être mis sur. Donc je vais être le porte-parole des questions, des interventions du Zoom. Peut-être.
D'accord, mais ils peuvent aussi utiliser le chat.
Et voilà, c'est ça, ils me posent des questions. Moi, j'ai le casque, ou soit en audio, soit en chat, et je transférerai les questions.
Ok.
Et moi, peut-être, j'en avais deux déjà. Il y a la casserole sur les publics là, qui traînait, alors. Une casserole qui traîne, elle demande peut-être à être ramassée sur l'étude publique. Un petit mot là-dessus ou pas, peut-être.
Comme ça, en général, non, il y a tellement de choses à dire que c'est un peu intimidant, presque, la question. Mais en gros, un, renouvellement. Deux, un renouvellement qui ne va pas forcément de pair avec un élargissement sociologique des publics. Alors, il faut savoir que la pratique festivalière est de toutes les pratiques de sortie culturelle celle qui a le plus augmenté au cours des 20 dernières années, et de très loin. Tandis que les publics du théâtre, de la danse en général, des bibliothèques, etc., en gros, sont à peu près stables, voire même régressent de temps en temps. Les publics de festivals voient leur population augmenter de manière considérable. Bon. Deuxièmement, nous, ce qu'on note, c'est que dans les dynamiques de public, il y a une logique de renouvellement des publics qui est tout à fait considérable, avec ce qu'on appelle des carrières de spectateurs. En fait, un public de festival, il vient au début avec un triple contrat d'assurance. Parce que ça lui fait peur. Le nouveau fait toujours peur. Enfin, c'est toujours un risque, disons plutôt. Et face à ce risque, il faut se prémunir. Ça paraît bizarre de dire les choses comme ça, parce qu'aller à un festival, c'est une joie, etc. Mais non, c'est un risque. Si on le prend sous l'angle du risque, on voit qu'un festival, un nouveau festivalier, il vient toujours accompagné. Première garantie, donc, les potes. Deuxièmement, il vient juste un peu. Deuxième garantie, s'il s'ennuie, si c'est raté, ce ne sera pas pour trop longtemps. Et troisième garantie, il vient voir s'il connaît déjà. D'accord ? Donc le nouveau, c'est ça. Le nouveau public, il a son triple contrat d'assurance. Et plus ça va, plus tout ça se dessert. jusqu'à arriver au festivalier, 15%, qui vient seul au festival. Mais en fait, il vient seul au festival parce qu'il est tellement chez lui dans ce festival qu'il n'est plus seul du tout. Vous voyez ? Bon. Et il ignore même la programmation du festival quand il a pris son pass. Bon. Il y a des festivals qui sont particulièrement impressionnants de ce point de vue-là, qui ont déjà totalement bouclé leur billetterie un mois avant le festival et quand l'affiche n'est pas encore totalement connue. Par exemple, le Paléo Festival de Nyon, en Suisse, est dans ce cas-là. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le public ? Alors, une question, une prétention des festivals, c'est, bah, nous, vous voyez, la barrière symbolique à l'entrée du festival, elle est beaucoup plus basse que la barrière symbolique à l'entrée du théâtre, de la ville, de l'opéra, de machin. Et donc, du coup, on a des publics qui sont des publics qui ne viennent pas, qui ne vont pas à la culture en général. Donc, on remplit une mission d'intégration sociale par la culture, ou d'intégration culturelle par le moindre coût social de l'entrée dans un festival. En fait, c'est vrai, mais c'est vrai pour une partie, il ne faut pas rêver non plus, très minoritaire des publics, aux alentours de 8%. Vous me direz, 8%, c'est déjà quelque chose. C'est vrai. Pour 8% du public, ben, c'est la seule occasion d'aller écouter un conte, d'assister à un concert, d'assister à un spectacle de danse, c'est quand même pas rien. Hein. Mais ça veut dire aussi que 92% du public pratique le festival au sein d'un système de pratique par ailleurs. Et quand on regarde la statistique comparée des publics des festivals et des publics de la culture en général, enquête sur les pratiques culturelles en France, du DEPS, c'est assez significatif et cruel. C'est-à-dire que les taux de pratique des festivaliers sont monstrueux, tandis que les taux de pratique des Français sont aux alentours de 10, 12, 15%, hein, selon les cas. Alors, voilà, l'image d'Épinal du public d'un festival, c'est quelqu'un qui vient de loin, c'est quelqu'un qui est habitué et c'est quelqu'un qui est vorace. C'est-à-dire qu'il est chez lui dans un festival et puisqu'il est chez lui, il consomme la totalité ou presque de la programmation. Il passe sa vie, il tutoie les ouvreuses, il est toujours dans la même maison d'hôte, etc. Voilà, donc et en fait quand on regarde la réalité, on se rend compte que 38% de nouveaux publics chaque année, donc les fidèles, d'accord, mais il n'y a pas que des fidèles, loin de là. Deuxièmement, 38% de gens qui ne viennent qu'à un spectacle, bonjour les voraces, hein. Ceux qui consomment la moitié et plus de la programmation d'un festival représentent 6% du public. C'est-à-dire que l'image qu'on a du festivalier, c'est une image qui repose sur 6% du public et qui vient de loin, je l'ai dit tout à l'heure, de moins en moins, puisque la festivalisation, c'est aussi la régionalisation du public. Je m'arrêterai là sur les publics.
Merci.
Oui.
Alors, est-ce qu'il y a une corrélation, il y a une question dans la salle, est-ce qu'il y a une corrélation entre le lieu du festival et le type de public qui vient ?
J'ai résumé rapidement. J'ai un peu évoqué cette question tout à l'heure. Je dirais globalement oui, mais il y a des exceptions. Donc, c'est exactement pareil que la gratuité, d'ailleurs. En général, Si je prends un festival comme Montpellier Danse, Montpellier Danse, d'un seul coup, a été financé par la communauté d'agglomération de Montpellier, qui est devenue métropole, 31 communes. Et donc, on a demandé à Jean-Paul Montanari, Dieu sur Terre, à Montpellier, pour la danse, de bien vouloir programmer dans les villages. Il a fait ça de manière condescendante. Et effectivement, au début, il a trouvé qu'il satisfaisait là simplement une injonction politique, que ça n'avait pas d'importance, que l'essentiel était ailleurs, dans son lieu, sacro-saint, Montpellier Danse. Et puis, il s'est rendu compte que, après quelques adaptations, parce que l'adaptation, au départ, ça a été de dire on ne fait pas débarquer la danse des fleurs de Bagoué dans un village ex-vigneron, désormais périurbain, sans avoir préparé les gens. Parce que sinon, c'est vrai que les danseurs, les danseuses se retrouvent en compétition avec la 103 Peugeot qui passe sans pot d'échappement. Ce n'est pas forcément très agréable pour personne d'ailleurs. Donc, adaptation, donc travail pédagogique en amont de l'arrivée. Et là, effectivement, sur le plan sociologique, évidemment que les gens sont au contact avec la danse contemporaine dans des conditions qui ne seraient jamais leur pratique, jamais autrement. Donc, effectivement, en l'occurrence, là, il y a un choc sociologique qui est créé. Le festival défunt supprimé par Pécresse en Ile-de-France, qui s'appelait le festival d'Ile-de-France, son principe, c'était ça. Hein, on a des lieux sacro-saints en ville, et puis on change à chaque fois de lieu dans la petite et dans la grande couronne. Mais on y va à chaque fois avant, on fait attention qu'il n'y ait pas une kermesse en même temps, des choses comme ça. Et moyennant quoi, effectivement, la sociologie des publics, on a pu le mesurer, était complètement différente, notamment dans les pratiques culturelles des gens, par ailleurs. Autrement dit, la place importante que le festival pouvait avoir de construire un rapport à la culture qui n'existait pas par ailleurs. Alors, il y a des contre-exemples, et c'est celui que je donnais tout à l'heure à propos de Vézelay, hein, où finalement, le public des lieux délocalisés est encore plus high church, si je puis dire, pour des églises, que le public de la basilique elle-même, pour des raisons qui tiennent à l'attractivité touristique de la basilique par rapport à un public en général. Et sur la gratuité, je vais opposer deux festivals, le festival de Besançon, en Franche-Comté, et en Bourgogne, Franche-Comté d'ailleurs, non, et le festival de Radio France à Montpellier. Le festival de Besançon avait pour habitude, alors ça s'est dépassé maintenant, mais là où je l'ai enquêté, avait pour habitude de donner le premier concert du festival gratuit sur la place de la Révolution. 3500 personnes, on enquête, on a plein de questionnaires, et on découvre là que pour une grande partie du public, c'est le seul concert de l'année. Donc là, gratuité, jackpot, culturel, politique. Même enquête sur Radio France. Principe, sur 120, c'est à peu près ça, mais sur 120 concerts, il y en a 110 gratuits ou 105 gratuits. Donc, quelle est la structure sociologique du public ? Ben là, elle est tout à fait bourgeoise, tout à fait intégré à des pratiques culturelles. La gratuité n'apporte rien sur le plan de l'ouverture sociale du public. Au contraire, un vrai paradoxe, mais certains spectacles payants de Radio France ont un niveau d'ouverture sociale plus important que des concerts de piano gratuits de 12h à 13h30 dans la journée. Autrement dit, dans un cas, vous avez une logique de gratuité qui a un véritable impact sur la sociologie du public et donc sur les objectifs de démocratisation culturelle. Et dans le deuxième cas, vous avez une gratuité qui devient en fait une rente pour les nantis, culturellement. Donc, il faut faire très attention à ça. D'autant plus attention que quand vous avez instauré la gratuité, c'est très difficile de revenir en arrière.
Est-ce que dans l'étude, il y a un niveau de détail suffisant pour la réaction pour comment se comporte le public lorsque les spectacles sont gratuits ?
La réponse est non. Il n'y a pas de détails suffisants dans l'étude pour aboutir à ça. En revanche, on a interviewé les opérateurs de festivals qui sont parfaitement conscients de ce phénomène-là et qui essayent, pour certains d'entre eux, qui essayent de redonner une valeur singulière à l'entrée au festival, alors même qu'il n'y a pas de valeur puisque c'est gratuit. Donc, essayer de détacher la valeur symbolique haute de la participation à un spectacle, par exemple, de l'absence de valeur monétaire attachée à ça. Et ça, c'est, bon, ça passe par des petites opérations symboliques, comme par exemple le fait de rappeler le silence, de rappeler à des normes de comportement, jusqu'à des formes de réservation, même gratuites, qui redonnent en fait à l'entrée au spectacle une dimension matérielle. Mais vous avez raison, en fait, on a des témoignages de responsables de festivals qui se plaignent de s'être vu imposer la gratuité, et donc des publics qui sont là dans un rapport complètement évanescent à l'égard de la création.
Est-ce que, pareil, est-ce que ça a été étudié en détail ou pas ? Du coup, la notion du prix libre, la liberté de mettre quelque chose à l'entrée. On en a essuyé les plâtres en essayant justement d'être flex et de laisser au public le choix de la valeur. Du coup, j'aimerais savoir, alors c'est peut-être pas dans le questionnaire, mais s'il y a des expériences réussies dans ce domaine, sur quoi elles s'appuient ? La liberté dans le prix.
Oui. Alors, dans l'étude, non, il n'y a pas de travail là-dessus, mais par contre, ce que je sais d'études réalisées par d'autres, c'est que, et c'est plutôt optimiste comme constat, c'est que si la démarche est présentée comme une démarche ayant pour but de permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de ne pas payer un prix exorbitant et d'avoir accès, quand les festivals fixent un prix qui serait un prix d'équilibre, dans le don, en fait, il est systématiquement dépassé, même quelquefois doublé, par ceux qui contribuent. Donc, c'est intéressant. Dans quelle mesure c'est pérenne ? Ça, c'est une vraie question que je me pose. De la même manière que la question... Alors, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais je saute du coq à l'âne peut-être, mais je m'attendais dans l'analyse des recettes des festivals à voir se maintenir les subventions, parce que ça, j'avais interviewé tout le monde, donc ils étaient tous, mais on a laissé toutes les subventions. C'est à peu près vrai. Donc, les politiques n'ont pas forcément menti à ce titre-là, les politiques ou les institutions. Et je m'attendais à ce que le sponsoring soit supprimé ou presque, et le mécénat demeure à un niveau important, et que le financement participatif demeure à un niveau important. Enfin, en gros, tout ce qui est soutien à la cause des intéressés. Et en fait, non. Le financement participatif s'est cassé la figure, le mécénat est tombé à 40% de maintien, le sponsoring à 28%. Donc certes, il est en dessous, le sponsoring, que le mécénat. Mais du coup, ça donne du mécénat une image quand même pas si reluisante que ça, pas si désintéressée que ça, puisque s'il se retire quand l'événement n'offre plus les conditions de visibilité requises à tort pour le mécénat, ça pose un problème. Donc, je le dis, je prends cet exemple-là pour dire que, comme pour le financement participatif, ces nouvelles méthodes doivent être examinées dans leur efficacité dans le temps. Parce que c'est facile d'être solidaire sur une fois. De le devenir structurellement, c'est autre chose. Je pense que c'est autre chose qui se joue. Et je pense qu'en échange de cette contribution-là, demandée, il faudrait envisager des contreparties. Pas des contreparties sonnantes et trébuchantes, mais des contreparties symboliques.
Oui, ça serait peut-être bien dans ce cadre-là de reparler encore de ces paiements au chapeau, hein, où beaucoup de gens ne se rendent pas compte que c'est absolument illégal, en plus par rapport aux gens qui font payer, ou même qui sont dans les systèmes dont vous parlez. Mais c'est surtout que ces gens-là peuvent être inquiétés après par les organismes. Et il y a énormément de gens à qui on dit, mais non, attention, c'est pas une forme de paiement. Ah, parce que nous, on le fait depuis 10 ans.
Oui. Oui. Oui, effectivement. Ça, en fait, dans cette étude, le vaste continent des tout petits événements, ceux qui ont des budgets de moins de 20 000 euros, dont l'essentiel passe en artistique, mais pas par le guzo ou par le paiement de rémunération artistique, mais par des formes, comme vous dites, de rémunération au chapeau ou latérale, effectivement, ce continent-là, il existe. Alors, effectivement, on peut lui faire beaucoup de reproches, mais en même temps, on peut aussi considérer que c'est là que se joue la dynamique de rapport à la culture pour un grand nombre de gens qui n'ont pas forcément accès aux grands festivals professionnels, subventionnés. Donc, cette économie-là, qu'on a appelée les festivals les volontaires, sont les festivals qui se sont d'ailleurs fortement maintenus pendant la pandémie, selon des modes plus ou moins dégradés, parce que l'essentiel de leurs ressources, c'est les bénévoles. Et pas de charge, effectivement, pas de charge. Avec la bénédiction des pouvoirs publics locaux, plus ou moins d'ailleurs. Ouais, c'est une vraie question, ça. Et le GUZO n'apporte pas une réponse automatique à ça, effectivement. Ça repose quand même sur une volonté qui fait parfois défaut.
Quel est l'impact de la diversité sociale, quand vous parliez tout à l'heure de bénévolat, sur le public, tant au niveau de la gratuité que des spectacles payants? Est-ce que vous avez des études, des résultats d'études avec un impact de cette diversité sociale sur le public?
L'effet de la diversité sociale du bénévolat sur la diversité sociale plus générale du public? Alors, je lisais tout à l'heure, il y a des exemples de choix qui sont faits sur la diversité sociale comme critère de recrutement des bénévoles. Ça reste exceptionnel. Donc, en fait, les bénévoles sont quand même, comment dire, une famille sociologiquement plus aisée, plus intégrée socialement que la moyenne. Il faut le savoir. C'est-à-dire que ceux qui pensent que les bénévoles sont forcément des gens qui sont dans la moyenne de l'identité sociale des Français se trompent. Hein, il y a quand même une petite déformation sociologique qui explique que les bénévoles sont quand même déjà dans un niveau d'intégration sociale assez fort. Et ça n'empêche pas, notamment dans les logiques de constitution d'un public local, que les bénévoles sont à la fois d'un côté un public spécifique du festival, ça c'est le premier point, et deuxièmement, un levier de conviction pour un public plus général dans l'idée de construire un public par le biais du bénévolat. Donc il y a effectivement un lien. Est-ce que ce lien peut aller jusqu'à tordre le cou aux dures lois sociologiques de la distinction sociale et du fait que le rapport à l'offre artistique reste socialement inégalitaire? Je ne pense pas, parce qu'il faut être prudent, mais il y a une dynamique incontestable qui peut passer par les bénévoles comme effet d'entraînement, effet de conviction prémunition contre le risque, contre l'idée d'une nouveauté, de quelque chose qui n'est pas pour soi. Toutes ces idées-là sont pied à pied combattues par l'action des bénévoles. Et le fait de montrer qu'il y a de l'engagement, de la joie, une espèce d'émulsion sociale, des rencontres par le biais du bénévolat, ça attire non seulement des gens pour être bénévoles, mais éventuellement pour participer, sans être bénévoles, à la fête à leur tour.
Emmanuel, est-ce que vous avez, dans votre étude, vu quelque chose qui vous a surpris concernant spécifiquement les festivals de contes? Est-ce que, par rapport à tous les festivals que vous avez, à toutes les enquêtes que vous avez faites, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris ou étonné ou pas?
Alors, au début, on est toujours un tout petit peu attentif aux écarts de moyenne. Donc, ce n'est pas forcément qu'on est surpris. Je dirais, dans l'ensemble, je n'ai pas été tellement surpris de constater, premièrement, que les festivals de contes avaient une logique de diffusion territoriale plus effective que beaucoup d'autres festivals, qu'ils se situaient massivement en dehors des périodes estivales, qu'ils étaient d'ampleur financière beaucoup plus modeste, avec un taux de dépenses artistiques plus important. Tout ça ne m'a pas tellement étonné, je dois dire. Ça m'a évidemment, ça a attiré mon regard, mais ça ne m'a pas bouleversé. C'est-à-dire que je dois vous dire que, mais ce n'est pas du tout de la prétention de ma part, hein, attention, mais je dois vous dire que à aucun moment je ne suis tombé sur des données pour lesquelles j'ai demandé à recalculer parce qu'il pouvait y avoir une erreur. Vous voyez, quand on fait un travail comme ça, souvent, quand on est face à une donnée qu'on n'arrive pas à comprendre, on commence déjà à regarder s'il n'y a pas eu une erreur. Quand je parlais tout à l'heure de la part du financement de l'État auprès des festivals, c'est le premier réflexe qu'on a eu, c'est de dire non, il y a trop d'argent de l'État, on a dû faire une erreur quelque part. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que s'il n'y avait pas d'erreur et que, du coup, il fallait expliquer cet élément surprenant qu'on a expliqué par le fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un écart assez fort entre ce que l'État assume financer au titre des festivals et le nombre de festivals qu'il soutient en réalité. Merci pour cette question.